Et merci Seigneur aussi hein, pour de conduire ces moments, comme notre pasteur vient de le dire. Merci de conduire ces moments. Ces moments, Seigneur, de partage de ta parole. Ces moments tellement importants où tu veux nous enseigner, tu veux enseigner mes frères et sœurs. Et nous voulons nous laisser conduire par ton esprit, Seigneur, ton esprit saint. Béni sois-tu pour cela, mon Dieu. Amen. Alors, début janvier. C'est pas loin début janvier, hein. Ça fait un mois et demi. Notre pasteur nous a fait part que le thème principal de l'année serait, vous vous en souvenez ? Ah, c'est mis là. Suivre Jésus. Suis-moi, notre pasteur avait dit. Le thème, suis-moi. Et vous avez compris qu'il ne s'agit pas de suivre le pasteur. Quoique, il peut aussi être un exemple pour nous, mais il s'agissait de suivre Jésus comme lui, Jésus, le veut. Amen. Alors c'est un thème très vaste, hein, dont nous ne verrons qu'une infime partie ce matin. Sous l'angle d'attitudes qui pourront, je l'espère, nous aider à mieux comprendre ce que Jésus attend de nous lorsqu'il nous donne cet ordre. Et je dois reconnaître que, pour ma part, j'ai été interpellé en préparant ce message. Alors effectivement, c'est d'abord un ordre donné par Jésus. Suis-moi. Et on retrouve cet ordre, suis-moi, adressé à de nombreuses personnes dans les quatre évangiles. C'est ainsi qu'il a appelé et missionner les 12 hommes qui allaient, donc qui l'ont suivi, et qui allaient donc devenir ses disciples. Mais pas que. Il a aussi donné cet ordre à d'autres personnes qui, malheureusement, ces personnes, ne l'ont pas suivi. Exemple, le jeune homme riche, trop attaché à ses biens terrestres. Puis aussi à d'autres personnes qui ont répondu à Jésus qu'elles avaient d'abord autre chose à faire, etc. Alors pourquoi suivre Jésus ? Eh bien, d'abord parce que, comme le dit la parole, il est le chemin. La vérité et la vie, mais il est le chemin. Nul ne vient au Père que par lui. C'est Jean 14, 6. Donc s'il est le chemin et que nul ne vient au Père que par lui, on voit bien que c'est bien celui qu'il faut suivre. Donc ces deux petits mots, « suis-moi », contiennent et résument à eux seuls tout le programme de notre vie nouvelle à partir du jour de notre conversion. « Suis-moi ». C'est en quelque sorte tout ce que Jésus attend de nous. Amen. Dans Jean 12, 26, Jésus dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Et il poursuit « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Cette parole de Jésus nous montre bien l'étroite proximité qu'il y a entre lui et ceux et celles qui le suivent. Là où je suis sera aussi mon serviteur. Mais encore plus que cela, celui qui me sert, le Père l'honorera. Waouh ! Vous imaginez ? Vous vous rendez compte ? Avoir les honneurs du Père, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Très-Saint, lui qu'habituellement nous honorons et auquel nous rendons gloire, lui nous honorera. Mais quelle promesse ! Amen ! Ça dépasse toutes les plus grandes distinctions honorifiques que l'homme peut espérer sur cette terre. Dieu l'honorera. Les honneurs du Père céleste. N'avez-vous pas envie d'être honoré par ce Père parfait, l'Éternel ? Oui ? Bon. Alléluia. Alors bien sûr, puisqu'on a envie de cela, c'est dans nos cœurs, dans notre cœur, on a vraiment envie. L'adversaire, vous savez, le malin, va tout tenter, souvent très subtilement, pour mettre des obstacles sur notre chemin. Quand cet ordre de Jésus, suis-moi, viendra résonner à nos oreilles. Ça pourra être toutes sortes de prétextes, parfois futiles, ayant pour seul but de dévorer notre temps. Aujourd'hui, c'est très facile, vous savez, pour lui, de nous faire passer du raisonnable à l'excès dans de nombreux domaines. La télé, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le sport, tout ce qui pourra nous rendre plus ou moins addicts. Mais aussi le travail, la maison, les loisirs, ou même notre consécration à des ordres caritatifs diverses et variées, quand c'est au-delà du raisonnable. Et ces divers prétextes, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Qu'en dit la parole de Dieu ? Luc 14, 18. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Luc 14, 19. J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. J'ai acheté une super bagnole, j'ai envie de l'essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Ah, il faut que je l'essaie. Il fait beau, la mer est belle, etc. Je t'en prie, quand même. Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Luc 14, 20. Luc 9, 59. Jésus dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Moi d'abord. Deux mots pas très adaptés quand Jésus nous appelle à le suivre. Car il faut bien savoir que si nous voulons suivre Jésus, il y aura toujours quelque chose à abandonner. Des activités, des habitudes, peut-être reconsidérer notre temps, notre emploi du temps. Il y aura aussi peut-être des souffrances, le mépris des autres, voire du rejet. Mais il y aura aussi quelque chose, quelque part, une source de joie, car si quelqu'un me sert, dit Jésus, le Père l'honorera. Amen. Et je me souviens d'un pasteur qui était venu prêcher ici, Timothée Mamba, qui est le pasteur de l'Église rachetée, il y a quelques mois, sur la parole de Paul dans 1 Corinthiens 6, 12. Vous vous rappelez de ce 1 Corinthiens 6, 12 ? Oui ? Quel était le verset ? Ah, il l'a mis. Il va plus vite que moi. Super, Pascal. Ouais. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Il me semble que cette parole est une piste pour revoir nos habitudes, réorganiser nos activités, le temps qu'on leur consacre, pour nous permettre de mieux suivre Jésus. Alors la question à se poser dans une activité, ou devant une activité, n'est-elle pas « oui, elle est permise ?» Mais est-elle utile ? Cette activité ne me domine-t-elle pas ? N'en suis-je pas quelque part esclave ? Et je dois reconnaître que j'étais de ceux qui avaient besoin de cette parole pour remettre un petit peu d'ordre dans la gestion de mon temps. Et il y a encore du travail. Mais merci Seigneur car tu t'en occupes. Et merci pour ta patience à mon égard. Car combien de fois aujourd'hui le Saint-Esprit me rappelle, oui, c'est permis, mais est-ce bien utile? Et je ne remets pas en cause les moments de repos, de pause, de réflexion qu'il nous faut, de lecture, de loisirs, de vie de famille, dont nous avons tous besoin, car elles sont utiles. Mais en y regardant bien, nous avons aussi des moments ou des activités peu utiles, voire futiles, qui nous dévorent parfois du temps que nous pourrions consacrer différemment, notamment à l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, pour en revenir à l'ordre de Jésus, « Suis-moi » et non « moi d'abord », nous allons voir quelques bonnes attitudes, peu compliquées, pour répondre au désir de notre cœur de suivre Jésus. C'est bien votre désir toujours ? Amen ? On y va. Alors effectivement, nous exprimons donc tous dans nos cœurs ce même désir de suivre Jésus. Mais parfois on se dit comment faire ? Comment avancer ? En fait, Jésus nous donne lui-même des indications. Nous allons voir cela dans Luc 5, 1 à 11, à savoir comment il a appelé ses premiers disciples. Et il ressort de cet épisode de l'Évangile quatre attitudes pour nous mettre en ordre de marche derrière Jésus. Je pense que plusieurs d'entre vous ont vu le film The Chosen. Oui ? Eh bien, cet épisode, Luc 5, 1 à 11, cet épisode donc du choix des disciples est décrit dans ce passage. Alors, lisons ce que la parole dit à ce sujet, sachant que cet événement se passe au début du ministère de Jésus, avant le choix de ses 12 disciples. On est au début de son ministère. Donc, que dit Luc à ce sujet ? Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai des filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur, saisis de crainte, d'une autre version, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les bacs à terre et laissèrent tout et le suivirent. Amen. Ok, c'est bien. Donc ce passage de l'Évangile débute par une constatation. Jésus est au bord du lac de Galilée. il y a sûrement un bon petit groupe de gens au départ, et ils commencent probablement à enseigner depuis le bord du lac. Mais la foule arrive et devient de plus en plus nombreuse et pressante pour écouter son enseignement. Jésus, voyant la foule s'agglutiner autour de lui et rendant probablement son message inaudible à ceux qui étaient derrière, parce que la foule arrive, il demande à une des équipes de pêcheurs qui était là de l'emmener à quelque distance du rivage pour qu'il puisse parler à tous de manière un peu plus confortable pour lui, plutôt que d'être pressuré par la foule, et surtout plus audible pour la foule. En étant un petit peu écarté, sa parole portera plus loin. Jésus voit aussi certainement que les pêcheurs, tous occupés à nettoyer leurs filets, ne pouvaient que l'écouter d'une oreille plutôt distraite. Là, dans la barque, ils n'auront rien d'autre à faire et seront obligés d'entendre ce qu'il dit. Ça nous montre quoi, cela ? Tout d'abord, qu'il n'y a pas pour Jésus de moment, de moyen ou lieu privilégié pour enseigner. Là où il est, au bord d'un lac, dans une barque. Il ne se limite pas à un lieu, ni à un moyen, ni à une méthode pour enseigner, pour parler. Toute situation peut être propice pour lui à nous parler, et pour nous à l'entendre et l'écouter. Amen. Il pourra bien sûr nous parler au travers d'une prédication, mais aussi par une pensée qu'il fera germer dans notre esprit, par une parole de la Bible, par une phrase dite par un ami, par un frère, une sœur, par un événement particulier, etc. Et ceci aussi bien lors d'une réunion d'église que chez nous, dans la rue, en voiture, même au travail, comme pour ces pêcheurs. Ils étaient au travail, les pêcheurs, là. Job 33, 14 nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Pourquoi on n'y prend pas garde ? Parce qu'on est très occupé, sans même s'en rendre compte aussi, conditionné par des schémas, des lieux, des moments où Dieu peut parler. On est dans le schéma. Alors la première attitude, lorsque l'on a à cœur de suivre Jésus, n'est-elle pas d'être prêt à recevoir ses paroles quand il le veut ? D'être sensible à sa voix, l'esprit toujours ouvert, comme une radio, prête à capter, toujours réglé sur la bonne fréquence, la fréquence Jésus. Vous connaissez celle-là ? Et surtout, ne pas changer de fréquence, par exemple quand on sort de ce lieu. Vous savez, la fréquence monde, tellement attirante. Non, restons branchés sur Radio Jésus. Et on pourra capter à tout endroit, dans tout lieu, à tout moment, ce que le Seigneur veut nous dire. C'est donc la première attitude pour suivre Jésus. Rester connecté, c'est-à-dire sensible à sa voix, ses messages, quel que soit l'endroit. Rester connecté, ça nous parle aujourd'hui ça. Connecté. C'est un terme très utilisé. Hein. Donc, restons connectés. Amen. Ensuite, lorsqu'on entend ou reçoit une parole, une pensée, que l'on s'est bien assuré qu'elle n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu, attention, c'est-à-dire que ce qui est reçu s'accorde, est en accord avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ce qui s'est passé avec les pêcheurs ils venaient d'entendre Jésus parler. Qu'allaient-ils faire de cette parole ? Nous aussi, que faisons-nous lorsque l'on reçoit de Dieu une parole qui nous interpelle ? Sommes-nous prêts à changer de point de vue ? D'avis ? D'habitude ? De comportement ? Laissons-nous humblement cette parole impacter notre vie ? Alors donc, dans notre exemple, que dit le texte ? Quand Jésus eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Jésus avait tout de même remarqué que les barques étaient vides. Et il fait cette proposition, « Jetez vos filets pour pêcher. » Alors à ce moment-là, donc, Simon était libre d'accepter ou de refuser. On peut dire, non, écoute, non. Et vous remarquerez même que Simon commence par répondre à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » En quelque sorte, Jésus, tu sais, si on n'a rien pris de la nuit, c'est qu'il n'y a pas de poisson ici en ce moment. Hein. Nous, on connaît bien le lac. Hein. C'est notre métier. Hein. Et ça ne servira à rien de jeter à nouveau les filets maintenant. Fais-nous confiance, on est des pros, on essaiera plutôt demain. C'est ça finalement, maître. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pour Simon, cette demande de Jésus est au premier abord insensée. Insensée. Et en plus, Jésus, à ce moment-là, n'est pas très très connu. Je rappelle que c'est le début de son ministère. Et puis, il n'a même pas le profil d'un pêcheur. Imaginez la situation. Pour Simon, le pro de la pêche. Mais il se ravise rapidement quand même, hein, très rapidement. Et se souvient de ce que Jésus vient tout juste de prêcher. Et de l'extrême pertinence de ce qu'il a dit. Rappelez-vous ce que disaient ceux qui entendaient Jésus parler. Dans Jean 7, 46, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et là, Pierre doit se dire, « Effectivement, qu'est-ce que c'est pertinent ce qu'il a dit ?» Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça interpellait les foules, comme ça nous interpelle encore aujourd'hui. Amen. Et Simon doit se dire à cet instant la même chose. C'est pourquoi, après une courte réflexion, il poursuit sa phrase en disant « Mais, sur ta parole, je jetterai les filets. » Même s'il est étonné de ce que Jésus veut lui faire faire. Et que ça va à l'encontre des fondements de son métier. Mais il est avec Jésus. Jésus est à ses côtés. Et ce qu'il vient d'entendre de Jésus est tellement vrai, limpide, plein de bon sens, incontestable. Pour lui, Simon, pourtant le pragmatique, l'homme de terrain, mais ce qu'il vient d'entendre, c'est « Waouh, ça dépasse tout ça ». Alors Simon laisse de côté sa perception humaine de la situation, pourtant bien argumentée, hein, fondée sur sa grande expérience du métier, et il écoute l'avis de Jésus et accepte d'agir conformément à sa demande. De notre côté, ne fait-on pas parfois plein de choses pour suivre Jésus ? Pour suivre Jésus. En fonction de notre perception humaine des situations, de notre logique, de notre solide expérience, ou de celle des autres, sans lui demander son avis. Vous savez, lorsqu'on s'implique dans l'œuvre de Dieu, et c'est très bien, il est aussi facile d'oublier Dieu au bénéfice de l'œuvre. Alors, on s'éparpille, on s'épuise, on entre parfois en conflit, on essaie à tout prix de tenir nos engagements, sans qu'il en sorte ce qu'on en attend, ce que nous on attendait, sans se soucier de savoir ce que Jésus voulait et lui en attendait. Donc, pour suivre Jésus, nous devons choisir d'agir avec lui, pas seulement pour lui, mais d'agir en coopération avec lui. N'oublions pas que nous sommes dans l'Église, nous sommes l'Église, et qu'il est la tête de l'Église. Et qu'en tant que tel, il connaît la volonté de Dieu. Et son seul désir à lui, Jésus, est de conduire l'Église dans le plan du Père, de son Père, notre Père, conformément à ce qu'il disait déjà lorsqu'il était physiquement parmi les hommes. Je ne puis rien faire de moi-même parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, 30. Et aujourd'hui, s'il n'est plus physiquement au milieu de nous, il l'est en esprit. Ne dit-il pas dans Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est le même Jésus qui a la même volonté, le même désir, celui de faire la volonté de son Père, notre Père, et de conduire l'Église dans la volonté du Père. Donc, si nous voulons être nous dans le plan de Dieu, nous devons écouter celui qui connaît le plan de Dieu, Jésus, et qui veut conduire le peuple de Dieu dans le plan de Dieu. Amen. Du coup, de tous ces engagements que nous avons pris cette année, tous très pertinents à nos yeux, est-ce que nous avons pris le temps de discerner si Jésus nous les demandait? Et je me pose aussi la question, pour moi, est-ce que je suis bien resté, un, connecté avec lui, pour ensuite pouvoir agir avec lui? À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que Jésus m'a demandé, j'étais alors bien connecté, et que je n'ai pas encore pris le temps de mettre en œuvre parce que je suis trop occupé par ailleurs? Dans ce cas, tout ce que je fais actuellement est-il bien utile? Rappelons-nous ce que Paul disait, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ainsi donc, la deuxième attitude pour suivre Jésus, vous l'avez compris, c'est de choisir d'agir avec lui. Pas seulement pour lui, mais avec lui, car c'est lui qui est la tête et le chef de l'Église. Amen. Alors si on en revient à Simon, il était connecté, Simon. Il a bien entendu la proposition de Jésus. Jetez vos filets pour pêcher. Deux, il accepte bien d'agir avec lui, avec Jésus. Même si ça sort de ses habitudes. Même s'il ne perçoit pas trop la situation comme Jésus la perçoit. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien apprendre, mais puisque tu me dis de le faire, Simon se lance. Les paroles de Jésus lui semblant tellement extraordinaire, venant d'ailleurs. Ainsi, la troisième attitude pour suivre Jésus me semble d'accepter d'avancer dans un chemin que nous ne connaissons peut-être pas, sortir de notre zone de confort, en un mot, nous mettre en mouvement par la foi donc sans forcément en percevoir ni le parcours, ni le résultat. Alors, il y aura probablement des pourquoi, des comment de notre part, qui resteront temporairement sans réponse, mais c'est en avançant par la foi que les réponses viendront en cours de route. Amen. Alors, quand Simon a décidé de se mettre en mouvement, en jetant les filets, il l'a fait par la foi. Et il devait, tout pragmatique qu'il était, je le vois bien Simon, encore quelque part se demander ce qu'il allait se passer. Avec encore cette petite pensée, vous savez, à l'esprit qu'il travaillait, ça le tortillait, ça. Mais tout de même, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais bon, je lui fais confiance. J'y vais. Ce que nous a dit, ça vient vraiment d'ailleurs. Et notez bien que ce n'est pas Jésus qui a acheté les filets. C'est Simon qui a agi. Jésus ne lui demande pas quelque chose de compliqué à Simon. Jette les filets. Point. Et Simon aurait pu refuser, comme on l'a vu tout à l'heure, fondé sur sa connaissance parfaite du lac. Mais par cet acte simple pour lui, Simon va manifester sa totale obéissance à ce que Jésus lui a demandé, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher, sans même savoir ce qui allait se produire. Et il ne va pas être déçu. Comme on dit, il ne va pas être déçu du voyage. Son obéissance va porter du fruit. Et comme pour Simon, c'est en obéissant d'abord avec confiance que l'on peut ensuite mieux comprendre les demandes de Jésus et découvrir le cheminement et en voir le résultat. Alors maintenant, alors, le pauvre Simon, à peine les filets jetés, il se retrouve avec un autre problème. Ben oui. Il ne s'attendait pas à ça. Dans la nuit, il n'y avait pas de poisson. Et maintenant, voilà que ses filets sont pleins à craquer, au point qu'ils se déchirent. Ils se déchirent, c'est ce qu'il est dit dans la parole. Hein. Son obéissance à une demande très simple de Jésus, jetez vos filets, l'a amené à un résultat au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Au-delà. C'est tout simplement ce que Jésus nous propose, si nous acceptons de le suivre. Il fera, à travers d'actes simples pour nous, qu'il nous demandera et que nous accomplirons avec foi, des choses que nous n'imaginons même pas. Je pense à cette parole, vous imposerez les malades et les malades seront guéris. Quand il nous demande ça, vous imposerez les mains aux malades, est-ce compliqué pour nous? C'est simple. Et les malades seront guéris. Ce n'est plus nous qui nous en occupons. Hein. Ce sera quelque chose d'inimaginable. Un miracle. Donc en acceptant de sortir de notre petit cadre bien confortable, bien connu, nous pourrons laisser agir Dieu en nous et à travers nous avec puissance. Comme pour Simon, Jésus ne nous demandera jamais de faire des choses compliquées, mais de faire avec foi des choses que nous savons faire, le reste, le Saint-Esprit s'en occupe. Amen. Ainsi donc, connecté, on a vu, et à l'écoute de Jésus, acceptant d'agir avec lui, la troisième attitude pour suivre Jésus, c'est comme Simon, de se mettre simplement en mouvement, se lancer avec foi, totalement confiant en Jésus. Vous Vous noterez en passant que devant les filets pleins à craquer, Jésus n'intervient pas. Ça ne vous semble pas étonnant, ça ? Les pêcheurs sont un peu dans la panade. Hein. Il n'intervient pas. On aurait pu penser qu'il allait aider Simon à se sortir de cette situation extrême dans laquelle il l'avait mis. Les filets se déchirent. Mais Jésus sait que c'est le métier de Simon, que c'est le domaine dans lequel il excelle et qu'il a toutes les compétences et l'expérience pour s'en sortir. La mission de Jésus n'est pas de faire à notre place ce que nous sommes capables de faire. Lui, sur la confession de foi de Simon, il a fait ce qu'il devait faire, Jésus, l'action miraculeuse. Et à travers cela, montrer qu'il est le Tout-Puissant. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Simon non plus ne fait pas appel à Jésus pour l'aider, mais à ses compagnons, dont il sait aussi qu'ils ont toute expérience pour traiter cette pêche exceptionnelle. Et ils s'en sortent. Ils s'en sortent en remplissant les deux barques à tel point qu'elles s'enfoncent, mais pas au point de couler. Étonnant quand même. Vous racontez compte, Jésus avait dosé juste les choses pour remplir les deux barques. Elles s'enfoncent et elles ne coulent pas. Vous imaginez la perfection quand Jésus agit ? Planche suivante. Alors, devant ce miracle, Simon ne s'y trompe pas. Il tombe aux genoux de Jésus. C'est la planche suivante, je crois. C'est là ? Non, c'est remonte. C'est ça. Oui, il tombe aux genoux de Jésus. Ouais. C'est ça, Pierre tombe aux genoux de Jésus. Voilà, okay. Donc, devant ce miracle, Simon ne s'y trompe pas. Il tombe aux genoux de Jésus et reconnaît en Jésus le Tout-Puissant, saisi par la dimension et probablement la sainteté de Jésus. Et devant cette grandeur du Maître, Simon réalise sa petitesse d'homme pêcheur, voire son insignifiance. Mais Jésus, il voit autre chose en lui. Car Jésus, de son côté, a probablement observé Simon. Vous remarquerez que depuis le moment où Jésus a demandé de jeter des filets aux pêcheurs, jusqu'au moment où il va leur dire « n'ayez pas peur », on n'entend plus parler de Jésus. Mais il est là encore. Il observe. Il observe Simon et la façon dont il a pris en charge cette pêche miraculeuse. En quelque sorte, il l'a sondé. Il le sonde. Avant de lui confier sa future mission. Car à la place de Simon, j'imagine un petit peu ce que nous aurions pu faire, ou ce que j'aurais fait. J'aurais été un peu paniqué hein, dans cette pêche impensable. Et je me serais dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces filets pleins à craquer et qui sont en train de se déchirer ? Maître, t'as vu nos filets ? Tu y es allé un peu trop fort, là. On va tout perdre. Ça se déchire. Au secours, viens nous aider. Mais Simon, lui, ne s'affole pas. Il retrousse ses manches. Fait appel à ses compagnons, montrant qu'il sait travailler en équipe, montrant aussi son énergie, sa détermination, son leadership, manifestant ainsi les traits de sa personnalité. Et Jésus le voit, ça. Il le voit. et lui dit, « Confiant Simon, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Matthieu 4, 19 dit, à propos du même thème, Jésus dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Suivez-moi. Donc au travers de cette situation critique, Jésus a vu la personnalité de Simon, l'être unique qu'il est. Il ne va pas chercher à le transformer en quelqu'un d'autre. Au contraire, il lui fait confiance et lui confie une mission pleinement compatible avec sa personnalité. Mais c'est son caractère à Simon que Dieu va façonner, transformer, afin qu'il soit utilisable et pleinement efficace à son œuvre. Et on voit bien, dans les évangiles et les actes, cette transformation tout au long du ministère de Pierre, non ? Il reste toujours Pierre, l'homme déterminé, énergique, pragmatique, leader, qu'il a montré dans cet épisode. Mais on voit aussi le Saint-Esprit transformer en lui sa perception, sa vision des choses, sa façon de penser, de parler, d'agir, d'aimer, développant quelque part en lui les caractéristiques du fruit d'esprit. Sa personnalité restait la même, hein, mais son caractère a été façonné, transformé, pour le rendre pleinement efficace à l'œuvre que Jésus vient confier. Ainsi, après s'être mis en mouvement, qui était la troisième attitude, comme Simon, la quatrième attitude pour suivre Jésus n'est-elle pas aussi d'accepter, s'il le juge nécessaire, de se laisser observer, sonder, voire éprouver par lui, puis transformer par le Saint-Esprit dans notre façon de percevoir les choses, de penser, d'aimer, d'agir, d'interagir les uns avec les autres et de laisser le Saint-Esprit développer les caractéristiques de son fruit en nous. Car Dieu a fait de nous un être unique, avec une personnalité unique, à laquelle il ne touchera pas, car c'est ainsi qu'il nous a voulu. Paul ne dit-il pas, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. David ne dit-il pas, je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Nous sommes tous différents, uniques, et c'est ce qui fait la richesse de l'Église. Alors ne cherchons pas à vouloir être une autre personne que ce que nous sommes. Dieu nous a fait comme ça. Mais comme Pierre, suivons Jésus avec enthousiasme en acceptant sa volonté à notre égard et laissons-nous façonner par l'Esprit Saint. Donc, comme pour Pierre, Jésus nous fait confiance, il voit le potentiel qu'il y a en nous et il a quelque chose à nous confier. Forcément. Il n'est pas un de ses enfants dans l'Église sans quelque chose à lui confier. Quelque chose à nous confier, donc, propre à la personne unique que nous sommes. Mais ça nécessite, comme pour Pierre, de rester connecté à Jésus, à son écoute, pour bien discerner les moments où il nous parle, choisir d'agir avec lui, selon son plan et non selon notre seule perception humaine des situations, accepter de se mettre en mouvement avec foi, confiant en Jésus, reconnaissant en lui le chef de l'Église, et accepter de nous laisser sonder par Jésus et façonner par Saint-Esprit. Et en lisant cette, en lisant ce matin cette quatrième attitude, je pensais à cette prière que David avait exprimée dans le psaume 139-23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. N'est-elle pas la meilleure voie? N'est-ce pas la meilleure voie que celle de suivre Jésus, celle qui conduit vers l'éternité? Amen. Alors, toujours envie de suivre Jésus? De se mettre à son service? Alors, si oui, vous serez béni. Car Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et le Père l'honorera. Et le Père l'honorera. Amen. Quelle bénédiction en perspective, tant individuelle que collective. Amen. Soyons bénis ensemble.